Me kesepastil. Oh, me kesepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde en ce jeudi 18 septembre. Il ne vous aura pas échappé que c'est une journée de grève nationale à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations sont organisées partout en France et des blocages aussi appelés ce matin. À Radio Escapade, on est resté sur le pont aujourd'hui, donc on va faire un petit tour quand même de ce qui se passe en France de ce côté-là. Et puis on va quand même aussi parler un petit peu des médias aux États-Unis et en France. C'est toujours la concentration et la droitisation, osons le dire, de l'extrême droitisation, voire même des lignes éditoriales. Et on va aussi, en deuxième partie de cette émission, bah, puisqu'on parle de bloquer des flux aujourd'hui, on va aller s'intéresser à des projets, un projet autoroutier principalement du côté de Arles, qui ne fait pas l'unanimité. Un peu d'actualité médiatique d'abord aux États-Unis où les répercussions de l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur podcasteur d'extrême droite, n'en finissent plus. C'est l'humoriste Jimmy Kimmel, un des plus célèbres animateurs de la télé américaine, qui va être privé d'antenne suite à des propos comiques, hein, accusant le clan de Donald Trump d'exploiter politiquement cet assassinat. Et ça a été confirmé donc hier soir par la chaîne ABC, hein, qui emploie l'animateur, et celle-ci appartient elle-même au groupe Walt Disney. Cet animateur de 57 ans, dont l'émission offre donc un regard satirique sur l'actualité 5 soirs par semaine, et qui a aussi été 4 fois maître de cérémonie pour les Oscars, eh bien dans une de ses dernières chroniques, il s'en est pris au comportement de la droite américaine. C'était lundi soir dans son éditorial. « Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end », dit-il, avec la clique MAGA. Donc les MAGA, c'est d'après le slogan Make America Great Again, donc les supporters de Donald Trump. La clique MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs, et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. Il s'est aussi moqué du président de la République, mais c'est une éditoriale qui, d'ailleurs, beaucoup de formats du soir aux États-Unis empruntent ce type de rhétorique et se moque voilà allègrement, c'est de la satire politique. La décision donc de le suspendre a été immédiatement saluée par Donald Trump, hein, qui assume son bras de fer avec les médias depuis son retour à la Maison Blanche. Il a appelé d'ailleurs dans la foulée la chaîne NBC à priver d'antenne deux autres humoristes célèbres, Jimmy Fallon et Seth Meyers. Nexstar, c'est un groupe de médias qui possèdent de nombreuses chaînes affiliées à ABC aux États-Unis a annoncé quelques heures plus tard que ses antennes allaient stopper la diffusion du Jimmy Kimmel Live. Du côté de la gauche américaine, on s'étrangle. Acheter et contrôler les plateformes médiatiques, licencier des commentateurs, annuler des émissions, tout cela est coordonné et c'est dangereux, fustigeait le gouverneur de Californie Gavin Newsom. Il estime que le Parti républicain ne croit pas en la liberté d'expression. Depuis son retour au pouvoir, en effet, Donald Trump a multiplié les attaques contre la presse en restreignant par exemple les accès à la Maison Blanche ou alors en passant par des procédures qui réclament des sommes astronomiques. Un exemple, ce mardi, le milliardaire républicain a annoncé par ailleurs poursuivre le New York Times en diffamation. Il exige 15 milliards de dollars de dommages et intérêts. Alors, est-ce que c'est un slogan que scandera bientôt la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte-Kounchi ? Puisque c'est ce qu'elle a déclaré. Elle a déclaré que CNews était une chaîne d'extrême droite. C'était dans une interview au Monde publiée jeudi. En plein conflit donc entre l'audiovisuel public français et les médias de la galaxie Bolloré, le tout au sujet de cette affaire Legrand-Cohen. Les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen sont en effet accusés de connivence avec le Parti Socialiste suite à la diffusion début septembre par le magazine L'Incorrect d'une vidéo qui les montre en pleine conversation avec deux responsables socialistes. Cette affaire a provoqué un conflit inédit, on est à un an et demi de la présidentielle de 2027. Donc d'un côté, les médias privés dans le giron de Vincent Bolloré, le milliardaire ultra-conservateur, on peut citer CNews et Europe 1, ceux-ci accusent l'audiovisuel public de parti pris pour la gauche. Resterait à dire que le PS est à gauche. De l'autre, France Télévisions et Radio France qui contre-attaquent et qui donc en appellent à l'ARCOM et au pouvoir public. La galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public, réclame sa privatisation et l'exprime avec violence. Un moment, il faut dire stop. Ce sont donc les mots de Madame Ernotte Gunchy, je ne sais pas comment on prononce, dans Le Monde. Ce qui m'inquiète désormais, continue la présidente de France Télévisions, c'est qu'une partie du personnel politique prend pour argent comptant ce qui est affirmé et repris sur les réseaux sociaux sans vérifier ce qui s'est vraiment passé. C'est ce qu'on appelle la post-vérité, poursuit-elle, en faisant donc un parallèle avec les États-Unis de Donald Trump, parallèle que vous aurez remarqué, j'ai poursuivi également dans ce journal. Interrogée quant à elle sur le fait de savoir si l'audiovisuel public était suffisamment soutenu par l'État et les politiques, elle a répondu « Je pose la question, si le soutien consiste à garantir l'indépendance de l'audiovisuel public, donc un financement pérenne, donc alors dans ce cas-là, on ne l'a pas », dit-elle. Et elle fait donc référence à ce contexte de fortes restrictions budgétaires. Et d'ailleurs, elle a aussi affirmé dans cette interview qu'elle n'était plus favorable au projet de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, ce fameux projet de holding porté par la ministre de la Culture sortante Rachida Dati. « J'ai toujours défendu l'union, dit-elle, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir que les conditions ont changé. L'urgence, c'est de donner des garanties sur notre indépendance », a expliqué la patronne de Radio France Télévisions, donc, pour expliquer ce revirement.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien.
Radio France, toujours, qui est d'ailleurs aujourd'hui en grève aussi à l'appel de l'intersyndicale, donc pour cette journée de mobilisation du 18 septembre partout en France. Sur le service public, donc sur les antennes de France Culture ou de Radio France, on entend le traditionnel petit jingle qui explique que l'intégralité des programmes ne peut pas être diffusée. Suite à donc à l'appel de l'intersyndicale dans un mouvement de grève contre la politique d'austérité et les restrictions budgétaires qui pèsent sur l'avenir du service public de la radio. Les syndicats de France sont unis pour la première fois depuis juin 2023. Ils se sont donc unis dans cet appel à manifester aujourd'hui contre des mesures budgétaires jugées brutales, et ce malgré des discussions entamées par ailleurs avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Parmi les mesures qui sont dénoncées, les coupes dans les services publics, le gel des salaires et des prestations, la réforme de l'assurance chômage, la désindexation des retraites et la hausse des franchises médicales. Plus de 220 manifestations déclarées étaient prévues selon la CGT. Les syndicats espèrent avec ce mouvement mobiliser jusqu'à 1 million de personnes dans toute la France. Par ailleurs, du côté du ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre sont sur le pont un peu partout sur le territoire depuis 4 heures du matin. À Paris, elles ont notamment pris position au niveau des portes de la capitale pour commencer à filtrer les véhicules et les piétons. On notait déjà ce matin à Lyon un important dispositif déployé place des Archives pour endiguer de possibles blocages de la circulation de la M7, puisqu'en parallèle de ces manifestations, de nombreux appels à bloquer les axes du territoire ont continué d'émerger dans la suite du mouvement Bloquons Tout, donc de la semaine dernière. D'ailleurs, comme la semaine dernière, l'utilisation des drones par les forces de l'ordre s'est généralisée pour la surveillance de ces manifestations, et ce malgré l'inquiétude des défenseurs des libertés publiques. Des moyens de surveillance, de détection ou d'appui pour des opérations en 2 ans, ces drones, petits aéronefs télécommandés et équipés de caméras, dont l'usage nécessite encore la prise d'arrêtés préfectoraux, ce sont devenus des outils indispensables, notamment sur les grands événements. C'est en tout cas ce que considère la police nationale. En 5 ans, la flotte de ces drones a triplé. On en a presque 1000 pour la gendarmerie, 650 pour la police nationale, selon les chiffres qui ont été communiqués par les autorités à l'AFP. En tout, donc, plus de 1500 gendarmes et policiers ont ainsi été formés à la fois sur le pilotage, les sujets de sécurité aérienne, mais également le cadre d'emploi de la caméra déportée. Pour ce qui est des actions qui étaient comptabilisées un petit peu plus tôt dans la matinée, des blocages de lycées à Paris, Marseille notamment. 22 interpellations à Marseille déjà avant 9h du matin. Une trentaine de lycéens qui bloquaient le lycée Racine à Paris. Des tentatives de blocage en cours sur le périph' lyonnais. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonçait que nous serons intraitables, ça c'était sur les heures autour des alentours de 8h du mat, par rapport donc à toutes ces tentatives de blocage, tout ce qui sort en gros des tracés annoncés par l'intersyndicale et qui a donc été autorisé par la préfecture. Il a annoncé avoir déjoué un sabotage en Martinique, bon, une vanne d'eau courante qui aurait été tournée. Du côté de Toulon, l'autoroute A50 et l'A57 étaient investies par des manifestants un peu avant 8h du matin. Et à Paris, des manifestants bloquaient le cours de Vincennes, dans l'est de la capitale. Par ailleurs, la police a chargé, des vidéos ont pas mal circulé, pour lever le blocage d'un dépôt de bus à Paris. C'était aux alentours de 7h30, on peut dire, qui savent casser l'ambiance. Donc ça, c'est avant l'arrivée de la police, hein, bien évidemment. Un blocage, bon enfant. Allez, allez, on les déglingue, hein, vous aurez entendu. Ce n'était pas les bloqueurs qui parlaient, c'était donc la police qui rentrait dans l'art de ces bloqueurs et de cette fanfare. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme blocage dispersé, hein, puisque suivant les mots donc, du ministère de l'Intérieur, aucune tolérance. Et ça s'est bien senti dans la manière d'appréhender justement toutes ces opérations de maintien de l'ordre par la police. Aux abords d'un lycée parisien également, il y a eu une expulsion de ces jeunes de manière assez virulente. Voilà, gage à dire que la leçon aura été retenue par ces jeunes. De nombreux protestataires, pour la quasi-totalité masqués, se sont donc déplacés devant le lycée. C'était au lycée du côté de Nation Hélène Boucher. À 10h sur Paris, les forces de l'ordre avaient procédé à 58 arrestations. C'était les annonces de Bruno Retailleau, ce qui fait 5 fois moins que le 10 septembre à la même heure, selon donc toujours les chiffres de l'Intérieur. Puisqu'on parle des lycées, le principal syndicat du secondaire, donc le SNES-FSU, recensait pour cette journée de grève 45% de grévistes pour les collèges et les lycées. Une forte mobilisation donc des personnels du second degré qui témoignent pour le président le porte-parole pardon, du syndicat d'une profonde colère des enseignants face aux conditions de rentrée, au déclassement salarial et à la mise à mal de l'école publique. Si on descend près de chez nous dans l'Hérault, le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauque, a donc interdit tout rassemblement à Montpellier en dehors de celui déclaré par l'intersyndicale pour aujourd'hui. Et il a, dans la foulée, publié donc des arrêtés qui autorisaient là aussi la captation d'images par drone dans plusieurs villes du département, jusqu'à chez nous, hein, jusqu'à Ganges. Des instructions strictes ont été communiquées aux forces de l'ordre pour empêcher toute situation de blocage, intervenir après sommation et interpeller les fauteurs de troubles. Ça, c'est ce qu'il a annoncé en cette veille de journée, donc hier soir. Le représentant de l'État dit craindre un regroupement des manifestants qui étaient mobilisés le 10 septembre dernier. Il a donc interdit tout rassemblement et manif en dehors de celles déclarées, qui partaient donc ce matin à 10h30 de la place Albert Ier de Montpellier, remontent jusqu'au Pérou pour redescendre ensuite vers la gare Saint-Roch par le boulevard du Jeu de Paume. Et sur la place de la Comédie notamment, le dispositif de sécurité s'est mis en place tôt ce matin pour sanctuariser l'écusson, c'est-à-dire c'est un secteur qui est interdit de toute manifestation. Il y a donc des forces de police au début de chaque petite rue qui filtrent les passants. Les commerçants sur le parcours ont été invités à baisser le rideau et à protéger leurs vitrines. Les cafés de la Comédie, eux aussi, avaient replié les terrasses ce matin. Et on a pu voir les vidéos de 2 blindés Centaure déployés. Donc des blindés qui sont normalement prévus pour des opérations, je ne sais pas, dans la forêt amazonienne par exemple. Comme si la menace était vraiment, vraiment extrême avec ces manifestations. On peut revenir quand même sur ce qui s'est passé la semaine dernière, je vous en ai parlé, mais une scène d'une rare violence a été massivement partagée sur les réseaux sociaux et continue de faire du bruit. On y distingue dans cette vidéo un jeune homme, il a 20 ans, ou 21 ans je crois, violemment percuté par un tir de canon à eau, bien ciblé sur la tête. Donc touché, le jeune homme masqué est projeté par la puissance du jet et s'envole avant de retomber au sol. Il a été pris en charge par des street medics la semaine dernière. Ces bénévoles chargés des premiers secours dans les manifs, puis les pompiers. Il s'appelle Lucas, il a été transporté à l'hôpital. Et il en est ressorti dans la nuit de mercredi à jeudi, selon sa mère, jointe par Mediapart. Elle explique donc que son fils souffre également d'amnésie, qu'il ne se rappelle de rien. D'ailleurs, il regarde lui-même la vidéo en boucle pour essayer de se souvenir. Il ne se rappelle pas non plus des jours précédents. Et que pendant la nuit, d'une minute à l'autre, il ne se souvenait pas de ce qu'il venait de dire. Les médecins ont expliqué à cette mère que c'était normal après un traumatisme crânien, que ça pouvait durer, que ça pouvait ne jamais revenir. En tout cas, pour ce qui était de la mémoire des jours précédents et suivants. Par ailleurs, sur cette journée du 10 septembre, un journaliste indépendant a été violenté et empêché de travailler par la police. Tout cela a été documenté et raconté notamment dans un article que vous pouvez retrouver dans les colonnes de Mediapart. Concernant donc l'usage du canon à eau et des LBD, d'ailleurs, qui ont été critiqués aussi par d'autres participants de cette manifestation, le préfet de l'Hérault donc lui affirmait que tout s'était déroulé selon les, on va dire, la réglementation en vigueur et qu'un groupe de 400 à 500 fauteurs de troubles avait posé problème tout au long de la journée, ce qui a obligé donc les forces de l'ordre à riposter de manière proportionnée. Il a évoqué des nombreux jets de projectiles et des insultes encore plus nombreuses à l'encontre des policiers. Il explique donc que la semaine dernière, 22 personnes ont été placées en garde à vue. Espérons donc qu'aujourd'hui, le dispositif répressif ne trouvera rien à se mettre sous la dent. Comme pour le 10 septembre, en tout cas, je vous le disais, des drones vont surveiller plusieurs villes de l'Hérault, Montpellier, Sète, Frontignan, avec une vigilance accrue sur le dépôt pétrolier, mais aussi donc Gignac, Bédarieux, Clermont-l'Hérault, Lodève et peut-être même Ganges.
On va peut-être rentrer, ça peut devenir dangereux.
Ouais, ouais.
Le péril jeune, vous aurez peut-être reconnu. Les appels au blocage pour cette journée ont malgré tout été maintenus par de nombreux groupes informels, même si évidemment tout cela n'est ni déclaré ni annoncé sur les réseaux. On aura donc peut-être des bilans un peu plus tard dans la journée ou dans la fin de semaine. Et ce, donc malgré toutes les déclarations publiques visant à délégitimer par exemple toute initiative qui sortirait des rangs de cette manif autorisée. On peut citer Jean-Luc Mélenchon qui disait donc sur Twitter ce matin « Toute action violente ne sert qu'une seule personne, M. Retailleau, qui a besoin des poubelles qui brûlent ». Il parle donc d'une provocation ambulante. Quoi qu'il en soit, on peut rappeler que tous ces appels à bloquer les routes et des centres de névralgiques, par exemple que des centres de commerce, sont motivés par l'objectif de ralentir ou de bloquer des flux économiques et donc d'essayer de taper dans le porte-monnaie. Hein, c'était quand même le but des grèves à la base. Ce sont des flux de marchandises principalement, puisqu'aujourd'hui l'économie française et de nombreux pays occidentaux reposent surtout sur le secteur tertiaire et plus exclusivement, voire de moins en moins, sur l'industrie. Ce qui amène donc les personnes qui veulent revendiquer à repenser leur manière de peser sur le pouvoir ou le patronat autrement que par une simple grève, qui peut être finalement peu impactante selon les secteurs dans lesquels on se retrouve, notamment pour une partie de la population précaire ou tous ces indépendants et autres ubérisés de la société. Des menaces donc de blocage que les forces de l'ordre ont été sommées d'éradiquer assez fort ce matin. On peut dire qu'ils ont eu, donc je vous le disais, pour casser l'ambiance. Et j'ai encore aussi un petit son qui a été filmé, c'était du côté de Marseille, puisque dans les Bouches-du-Rhône, plus de 900 personnes ont participé à 18 actions de blocage sur les Bouches-du-Rhône. Et toutes les tentatives ont été déjouées par les forces de l'ordre, indiquait la préfecture. Avec notamment ces images qui venaient de Marseille ce matin, où une jeune femme était violemment frappée et jetée à terre par deux policiers à Marseille, à l'aube, à côté visiblement d'un point ou d'une tentative en tout cas de blocage. On peut voir un nuage de lacrymo derrière, la jeune femme toute seule face à deux policiers avec ses petites sandales et son petit short et son sac. Et voici un petit peu l'ambiance. Voilà le maintien de l'ordre à la Retailleau. Pour conclure donc sur ces blocages et la petite transition, on parlait des flux de marchandises, de toutes ces personnes qui se retrouvent sur les routes en circulation tous les jours, provoquent malgré eux souvent des blocages involontaires qu'on appelle plutôt embouteillages sur une grande partie des routes de France et ce quotidiennement. Est-ce une fatalité ? On part maintenant du côté d'Arles justement, où ça bloque souvent, pour un entretien à ce sujet. puisque aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. Un week-end de mobilisation festive pour discuter et pour s'informer sur le projet de contournement autoroutier d'Arles, avec de nombreux collectifs et associations qui s'y opposent sous justement cette bannière du « En travers de la route ». C'est le nom de ce collectif, ils tentent de faire annuler le projet. Sur leur site, on peut lire que ce projet est un projet du vieux monde, pensé pour transformer la Camargue en couloir à camions. On s'est entretenu au téléphone avec François du collectif donc, « En travers de la route », qui nous explique les enjeux autour de ce projet autoroutier, et la décision et l'organisation donc de cette mobilisation pour les week-ends prochains, histoire de coller au calendrier administratif que ce type de projet de grande infrastructure voit toujours se déployer.
C'est un vieux projet qui date d'environ une trentaine d'années, qui est de faire un contournement autoroutier à la ville d'Arles. Aujourd'hui, c'est une deux fois deux voies qui traverse une partie de la ville, avec une circulation très dense, il ne faut pas se mentir, avec pas mal de camions. Il y a environ 71 000 véhicules quotidiens, dont 10 000 camions. Et l'État prévoit donc depuis une trentaine d'années de faire un contournement autoroutier. Et là, on arrive dans une nouvelle étape administrative, avec à l'automne l'enquête publique. Et donc en parallèle de cette enquête publique, le collectif En travers de la route va mener différents événements pour informer et sensibiliser la population aux impacts de ce projet. Le collectif En travers de la route regroupe une dizaine d'associations et mouvements locaux.
Ce projet-là, il passerait où à peu près ?
Le tracé autoroutier en fait n'est pas très loin du tracé actuel, c'est vraiment juste au sud de la ville. Il y a donc la RN113, la route actuelle, arrive de Nîmes et longe un petit peu une partie du centre avant de partir vers Saint-Martin-de-Croix et donc après en direction d'Aix. Le contournement, il est éloigné au maximum de 2 km du tracé actuel, donc c'est vraiment juste au sud de la ville, ça épouse un petit peu les limites urbaines de la ville au sud, en passant au Gimaud, au sud de Bariolles, juste au sud de l'hôpital, puis après ça remonte vers Raphaël.
Et alors ces terres, pour l'instant, elles sont encore assez préservées de l'urbanisation, justement ?
Complètement, ouais. Le projet, l'emprise du projet est d'environ 240 hectares. Sur ces 240 hectares, il y a 150 hectares agricoles qui seront directement impactés, donc détruits, tout simplement. 150 hectares agricoles avec différentes cultures dessus, hein. C'est du riz, du blé, il y a des vergers, il y a du foin de croc, il y a de l'élevage, il y a du maraîchage, enfin voilà, c'est une agriculture assez diversifiée, plutôt tournée vers la consommation locale. Il y a une quarantaine d'exploitations agricoles qui sont impactées, beaucoup sont en bio en plus, donc c'est un peu rageant de voir ce type de projet du 20e siècle réapparaître comme ça aujourd'hui. Ouais. Plus aussi 80 hectares d'espace naturel, avec des milieux très intéressants, que ce soit des marais, les ripisylves. Alors les ripisylves, c'est des forêts au bord du Rhône. C'est très impactant à la fois sur l'agriculture et sur les espaces naturels.
Oui, parce que petit détail qui n'en est pas un, il y a aussi le Rhône quand même qui longe la ville et qui a un gros, très bel espace. Et donc il va falloir en plus, enfin il faudrait faire un pont là-dessus.
Il faut faire un viaduc, tout à fait. Il y a un projet d'un viaduc de 1,6 km pour traverser le Rhône. Le Rhône à cet endroit-là est assez large et il y a des gros enjeux par rapport au risque d'inondation également. C'est ce qui avait fait capoter le projet autoroutier il y a une vingtaine d'années. Arles avait été inondé en 2003, du coup ce projet était tombé à l'eau. Et donc ils ont fait un gros travail du coup par endroit, faire de la transparence sous l'autoroute. Donc par endroit, en fait, l'autoroute sera sur pilotis. Et effectivement, il y a la traversée du Rhône, où là, donc, il y a un viaduc assez imposant.
La question suivante qui va nous amener après, j'imagine, sur les moyens de lutte, c'est vous êtes dans une zone quand même, comme tu le disais, avec des espaces naturels assez préservés. Et justement, il n'y a pas un parc, le parc de Camargue, des choses qui normalement devraient empêcher ce type de projet ?
Normalement, ça devrait. Normalement, ça devrait. Effectivement, en fait, donc Arles, c'est aux portes de la Camargue, aux portes de la Croix. Il y a les Alpilles juste à côté. Ce triangle-là, Camargue, Croix-Alpilles, on appelle ça le triangle d'or de la biodiversité. Il y a une richesse faunistique et floristique très importante. Le parc de Camargue, effectivement, est présent. Il faut savoir que le tracé autoroutier va frôler le périmètre du PNR, mais ne pas rentrer dedans. Mais ce périmètre du parc naturel régional de Camargue avait été modifié il y a une quinzaine d'années et légèrement raboté. Et on s'aperçoit que le tracé autoroutier passe aujourd'hui là où ça avait été raboté. Donc il y a le PNR juste à côté, il y a aussi différentes zones Natura 2000, que ce soit le Rhône, en Camargue, la zone des Trois Marais. Donc il y a différents sites Natura 2000. Il y a différents labels environnementaux qui concernent à la fois la Camargue et sa périphérie. Sur l'ensemble du tracé, les études des bureaux d'études qui ont travaillé pour la DREAL. Donc la DREAL, c'est la structure régionale
de l'aménagement
routier. Les bureaux d'études ont recensé plus de 450 espèces végétales, plus de 150 oiseaux répertoriés, une quarantaine de mammifères, énormément d'espèces parmi elles qui sont protégées. Et donc effectivement, premier effet, c'est de se dire il y a des espaces protégés et il y a également des espèces protégées, ça ne se fera pas. Mais dans ce genre de situation, quand le projet est déclaré d'utilité publique et que derrière on peut avoir des dérogations de destruction d'espèces protégées, c'est ce qui se fait actuellement aussi sur le chantier de la 69 par exemple. Dans tous les gros projets d'aménagement comme ça, il y a toujours des dérogations, il y a une richesse biologique très importante, il va y avoir ces dérogations que l'État va demander. Nous, associations, on va attaquer juridiquement du coup cette dérogation pour essayer d'avoir gain de cause.
Et là, donc, tu le disais, c'est la phase justement d'enquête d'utilité publique qui démarre, donc avec normalement consultation du public. Et c'est là-dessus justement que vous espérez peser avec cet événement et les autres qui vont suivre.
Ouais, c'est ça. La population d'Arles est au courant de ce projet, ça fait 30 ans qu'on en parle, donc tout le monde sait qu'il y a ce projet autoroutier. Mais finalement, on a tenu régulièrement des stands sur le marché du samedi à Arles pour informer déjà un petit peu la population. Et on s'aperçoit qu'ils ne savent pas où ça va passer, ils ne savent pas vraiment les impacts sur l'agriculture, sur certaines habitations, sur la biodiversité, sur la nappe de crocs aussi, la nappe phréatique. Donc en fait, il y a énormément de manque d'informations. Les documents transmis par la DREAL sont toujours très techniques, c'est très lourd, ça fait des centaines de pages, pas grand monde qui se lance à les lire. Donc nous, on souhaite faire un gros travail d'information et de sensibilisation. Et effectivement, lors de ce week-end-là, la journée du 27, on a différentes tables rondes où on va aborder la question de la logistique et du fret. On abordera aussi la question de l'artificialisation des sols et de ses conséquences sur l'agriculture, sur la nappe phréatique, sur la biodiversité. L'idée du dimanche, après, c'est d'aller sur le tracé du projet autoroutier pour montrer du coup aux Arlésiens où est-ce que ça va passer, ce que ça va engendrer comme dégâts sur des terres agricoles, sur des terres naturelles, sur des maisons aussi, parce qu'il y a au bas mot une trentaine de maisons qui vont être rasées, mais après des maisons qui sont après entre, on va dire, 10 et 50 mètres d'autoroute, est-ce qu'ils vont demander une expropriation, est-ce qu'ils vont accepter de rester là aussi? Donc il y a de gros impacts aussi humains avec ce projet.
Et alors si le calendrier de l'État est maintenu, là c'est donc l'utilité publique, et après c'est quoi les grandes dates?
Pour l'instant on n'a pas encore les dates d'enquête publique, elles devraient avoir lieu cet automne, mais on n'a pas encore la date exacte. Généralement ça dure un mois. Ensuite, le commissaire enquêteur fait la synthèse du coup des réponses du public. Il faut compter à peu près 2 mois, donc on peut tabler sur une éventuelle déclaration d'utilité publique, on va dire au mois de février-mars 2026. Ou alors une très bonne nouvelle et un abandon du projet.
Non. Ouais. Sachant que c'est pas obligatoire. Enfin, c'est obligatoire de la faire, mais l'avis du public ne va pas décider de. Enfin, on n'est pas dans la démocratie directe. Hein. Ça reste un.
Non, parce que non. Il y a plein d'exemples comme ça où, notamment à Nîmes, il y a un projet de contournement à Nîmes, contournement ouest de Nîmes. Lors de l'enquête publique qui a eu lieu il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une majorité de réponses défavorables au projet, et malgré tout, derrière, la DUP a été prise. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est un peu un déni de démocratie. Ouais.
Et alors, qui c'est qui pousse un petit peu ce projet? J'ai l'impression, en tout cas, que les avantages directs pour les Arlésiens, même si dans des grandes villes, on peut parler les gens croient que ça va désengorger peut-être leur périmètre. Chez vous, je ne sais pas si c'est complètement un argument qui pourrait faire mouche.
Alors, c'est un argument qui fait mouche auprès de la population, mais pour de mauvaises raisons. En fait, pour répondre au début de ta question, il faut dézoomer un petit peu d'Arles. Là, tu me parles de notre contournement, mais c'est pas le seul projet autoroutier dans la région. Quand on dézoome un petit peu, on a le contournement ouest de Nîmes, on a le contournement ouest de Montpellier, on a le lien à Montpellier, on a un projet qui a été abandonné il n'y a pas très longtemps normalement à Avignon, la liaison est-ouest à Avignon. Il y a un projet de contournement de Martigues, il y a un projet de liaison autoroutière entre Fos et Salon de Provence. Et en fait, quand on dézoome un petit peu, on s'aperçoit que le cœur de tous ces projets, c'est le grand port maritime de Marseille, la zone industrielle-portuaire de Foss, avec notamment le port de marchandises. De là partent, donc il y a les grands super porte-containers qui arrivent là, et tous ces containers après sont dispatchés soit dans des entrepôts logistiques à proximité, soit partent directement après sur route, un peu à travers tout le pays.
Chargés de marchandises arrivant au bout du monde, ouais, qu'on commande sur Internet.
Exactement. Et tous ces petits barreaux autoroutiers en projet vont favoriser du coup le passage de ces marchandises. Sur Arles, la 113 actuelle, la route nationale 113, elle est très empruntée, c'est un fait, on ne le nie pas. Mais ça fait 30 ans qu'on parle de ce projet autoroutier, et ça fait 30 ans qu'il n'y a aucun aménagement de fait sur l'axe actuel. Donc il y a des nuisances sonores pour les riverains, mais aucun mur anti-bruit n'a été installé. On sait qu'il y a 2-3 voies d'insertion ou échangeurs qui posent problème à certaines heures de la journée et provoquent des bouchons, mais ça n'a jamais été modifié, voilà, depuis que ça existe. Donc il y a un discours qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années où, d'après les différents élus arlésiens qui se sont succédés, l'État ou la région, si on ne fait pas d'autoroute, tout est bouché, machin, il faut faire une autoroute. Alors qu'en fait, il y a différentes possibilités de faire autrement. Sur cet axe-là, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait 10 000 camions quotidiens. C'est beaucoup, ça, on ne nie pas. Sur ces 10 000 camions, la dernière étude de trafic a montré qu'il y a environ 4 000 camions qui proviennent ou qui vont en Espagne. Donc c'est du fret international. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter qu'il y ait 4 000 camions qui traversent le pays, pour lesquels on va faire des contournements autoroutiers, pour lesquels on va détruire des terres agricoles, des terres naturelles, pour faire passer des camions étrangers. Ça fait des décennies qu'on entend parler de développer le fret ferroviaire. Ben là, on a envie de leur dire, allez-y les gars, c'est le moment, quoi. C'est typiquement ce genre de trajet international en camion, ça n'a rien à faire sur une autoroute française. C'est sur rail que ces containers doivent traverser le pays. Et pareil pour les containers qui arrivent à Foss, il y a une infrastructure ferroviaire existante. Ils sont en train de rénover la gare de triage à Miramas, qui après dispatche les trains du coup sur notamment la ligne Paris-Lyon-Marseille. Donc en fait, l'infrastructure ferroviaire, elle existe, il n'y a qu'à y mettre les conteneurs dessus. Voilà. Plus après, donc ça peut déjà délester fortement l'axe actuel des camions. Et après, au niveau local, c'est aménager 2-3 échangeurs qui posent problème, c'est développer un peu plus les transports en commun entre Arles et les villes périphériques. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour qu'on puisse améliorer l'existant et préserver nos terres agricoles naturelles.
Vous êtes en lien avec, j'imagine, des collectifs justement qui travaillent aussi localement sur des projets routiers
et... Oui, déjà au niveau national. Au niveau national, il y a la coalition qui s'appelle la Déroute des routes, qui regroupe une cinquantaine de collectifs comme le nôtre, qui luttent contre des projets autoroutiers ou routiers. On a tous entendu parler de la 69, mais il y a le contournement de Rouen, il y a Montpellier, donc voilà, il y a une cinquantaine de projets comme ça, qui permet de mettre en commun du coup des savoirs, des retours d'expérience, des moyens de lutte. Et effectivement, comme au niveau local, il y a pas mal de projets similaires, c'est aussi un des buts de notre week-end fin septembre. On a convié du coup des personnes de Montpellier, de Nîmes, d'Avignon, de Salon, et pouvoir se rencontrer et voir au niveau local, régional, comment on peut se coordonner davantage pour s'aider les uns les autres et intervenir aux besoins. Alors, tout est sur le site contournement-arles.fr, notre site internet. La journée du samedi 27 septembre, c'est au Mas de Granier, à Saint-Martin-de-Croix, à la ferme qui s'appelle Langomaille. Donc là, c'est une journée de table ronde, de rencontres, d'ateliers d'artivisme. On termine par un grand repas et une soirée musicale, concert du groupe Patoum Patras et après un DJ. Et le dimanche 28 septembre, on a rendez-vous au Mas du Lion, sur le chemin de Villevieille, à 9h30, petit accueil, puis après on partira en cortège festif en fin de matinée. Et le samedi, pardon, j'ai oublié, le rendez-vous est à 13h30.
Bah, François, merci. Je ne sais pas si on a oublié des choses. Tu veux rajouter une dernière chose pour nos auditeurs, nos auditrices? Ça croise tout, quoi, la biodiversité, la pollution, les...
Ça croise beaucoup de choses, et en premier lieu, notre mode de vie et de consommation. On évoquait tout à l'heure les marchandises qui arrivent à Foss, et tu l'as dit, ça vient de l'autre bout du monde, c'est nous qui le commandons très souvent sur Internet. Voilà, derrière, il y a tout ce modèle-là qui va avec, de transport de marchandises et donc d'infrastructures qui ont un impact évidemment très lourd sur les terres agricoles, naturelles, sur les nappes phréatiques, sur la biodiversité de manière générale. Donc tout est assez imbriqué. Et le samedi 27, du coup, c'est l'occasion de parler de tout ça un peu plus longuement avec différents intervenants, soit associatifs, soit des chercheurs. Les agriculteurs seront là aussi, donc voilà, il y a pas mal de profils différents qui seront là pour échanger autour de ces différentes thématiques. À bientôt, bonne journée.
Laisse béton.
Et voilà, c'est la fin de ces Nouvelles du Monde. Il est 13h12, nous sommes sur Escapade. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des Nouvelles du Monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.